vie rectangulaire.
Le rock and roll, viol de la conscience par la musique subliminale. Pat Boone déclarait récemment « Nul ne peut dire que l'influence du rock'n'roll fut saine et positive. C'est comme un flûtiste enchanteur perverti conduisant toute une génération dans la direction de l'autodestruction. » Depuis plus de 30 ans, une puissante révolution a pris forme sans parti politique, sans discours électoral, sans même de manifeste idéologique pour énoncer les buts et objectifs des nouveaux révolutionnaires de fortune. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une profonde révolution sociale, économique, morale et culturelle a choisi de proclamer son radicalisme par la musique, les chansons et les groupes étoiles du rock and roll. Au départ, tout cela n'a pas été pris tellement au sérieux, car tous s'imaginaient que c'était une mode de plus qui finirait bien par passer, comme l'avait déjà fait le Charleston, le boogie-woogie et le twist. Toutefois, le phénomène socio-culturel du rock'n'roll, commencé au début des années 50, allait déferler sur le monde telle une vague de fond mêlée de boue, de scories, de sang et même de sacrifices humains. 30 ans plus tard, la musique rock a évolué jusqu'à devenir la plus puissante révolution des corps, des cœurs et des esprits jamais sortie des entrailles de l'enfer. On est peut-être en droit de se demander qu'est-ce qu'un prêtre catholique, un religieux trinitaire, un prédicateur de retraite et un animateur de radio peut bien connaître de sérieux sur la musique rock'n'roll, sur son histoire et sur son évolution. Ou encore, qu'est-ce qu'un homme de 50 ans peut bien comprendre d'un phénomène de jeunesse devenu un mouvement si populaire et si universel? La réponse tient en 5 mots. Comme prêtre, je suis d'abord pasteur. Comme religieux trinitaire, libérateur des captifs. Comme prédicateur de retraite, messager de la parole de Dieu dans 53 pays. Comme fondateur du Centre Paul VI, préoccupé tout spécialement par l'évangélisation des jeunes entre 15 et 25 ans. Enfin, comme criminologue spécialisé en psychiatrie criminelle, profondément interpellé par la vague de violence et de suicides directement rattachée à la révolution socioculturelle provoquée mondialement par le rock and roll. Une précision importante s'impose par surcroît. 18 cas de suicide survenu dans la région de Montréal-Granby-Québec dans mon propre ministère en moins d'un an, chez des jeunes de 15 à 21 ans, dont la recherche a démontré que la seule constante repérable en tous ces cas était le facteur musical du rock'n'roll. Fallait-il davantage pour me motiver à poursuivre une exploration en profondeur de ces tragédies humaines provoquées par les rythmes endiablés et sataniques de cette cacophonie qu'on nomme musique. Le but de cet entretien est d'offrir une information aussi précise que possible sur le phénomène global du rock'n'roll, traiter tout particulièrement de la question des messages subliminaux en tant que viol de la conscience et amener les auditeurs à une prise de conscience aiguë en vue d'une prise de position énergique face à cette révolution mondiale qui affecte toute la jeunesse. En conclusion, nous rappellerons que l'heure est à l'espérance, car le Christ est vainqueur. D'où nous vient la musique du rock'n'roll? Où a-t-elle pris naissance? Quand a-t-elle reçu son baptême, sa consécration? En 1951-52, un jeune chanteur du Midwest américain nommé Richard Little a commencé à modifier le beat du Rhythm and Blues. À l'automne de 1954, un film célèbre, Blackboard Jungle, rendait populaire le thème musical Rock Around the Clock. Il s'agit d'un musicien nommé Bill Haley. Toutefois, c'est un disc jockey du poste de Cleveland qui inventa le terme « rock and roll » afin d'identifier ce nouveau rythme musical. Ce que la plupart ignorent, c'est que l'expression décrit les deux mouvements giratoires du corps humain au cours des ébats sexuels. L'emprunt est fait à l'argot populaire des ghettos américains. En 54-55, un jeune chanteur et guitariste maîtrisait la technique et la forme musicale de cette musique nouveau genre. Il s'agit d'un jeune baptiste du Sud, formé dans une chorale paroissiale, fort admiré pour son talent et pour sa voix pleine de charme. Son nom, Elvis Presley. Ce parfait inconnu est devenu notoire par le fait que sa propre révolte adolescente contre la moralité puritaine du Bible Belt incarnait pratiquement le besoin qu'ont les adolescents de rejeter les tabous religieux et sexuels de leur milieu. Elvis prenait plaisir à soulever la jeunesse, non seulement par sa musique et par ses paroles, mais surtout par ses gestes obscènes et provocateurs qui accompagnaient ses spectacles. Conscient de son statut symbolique et de son contrôle sur les émotions les plus primitives des adolescents, Elvis a délibérément entretenu et favorisé le soulèvement massif de millions de jeunes à travers le monde contre toute forme de contrainte et toute forme d'autorité. Faisant appel directement aux instincts rebelles d'une jeunesse dévorée par la fureur de vivre, il a exploité à fond le thème et la philosophie de l'amour physique débridé. Voilà la première phase de la révolution du rock'n'roll dans le monde. Les quatre étapes de l'évolution du rock'n'roll. Comme il fallait s'y attendre, le soft rock est rapidement devenu le hard rock, dont les principaux protagonistes furent Jerry Lee Lewis, Stevie Nicks et Alice Cooper. Ce qui caractérise cette deuxième vague, c'est d'abord un perfectionnement du rythme, le beat, l'intensité du volume et le déchaînement frénétique des instruments de percussion. Le but poursuivi, c'est d'envelopper, d'immerger l'auditoire dans un océan sonore en furie. On n'écoute pas le hard rock. On est baptisé dans un milieu sonore selon une liturgie de sexe, de perversion et de révolte. De tous les artistes du heavy rock, c'est sans doute Peter Townsend qui consacra définitivement le genre. Si Alice Cooper peut être appelé le génie du hard rock, Peter Townsend en est le maître accompli. Mais la révolution ne fait que commencer. L'arrivée en scène des Beatles, des Rolling Stones et du groupe The Who va maintenant introduire un élément nouveau aux ressources infernales. La jeunesse a déjà été initiée aux drogues hallucinogènes depuis que le docteur Timothy Leary a fait connaître la formule du LSD. Inévitablement, la musique rock allait intégrer toute la panoplie de la drogue pour l'éventail des émotions fortes offertes aux auditeurs de la nouvelle vague l'acid rock. Les Beatles avec Yellow Submarine, une hallucination psychédélique, les Rolling Stones avec Brown Sugar, cocaïne, Sister Morphine, sœur morphine, et Cousin Cocaine, cousin cocaïne, et finalement Silver Lady, la seringue hypodermique. A.B. Hoffman déclare en effet, le rock est la source de la révolution. Notre façon de vivre avec la drogue, les vêtements freaky de la musique rock à plein pouvoir, c'est ça la révolution. On pourrait croire que toutes les limites avaient été atteintes, mais ce serait là sous-estimer les ressources du génie diabolique des révolutionnaires présentement en cause. Il fallait franchir une dernière étape, celle de l'occultisme conduisant au culte satanique. C'est la phase 3 de la révolution inaugurée par les Beatles en 1968 avec la parution du Devil's White Album contenant les deux pièces suivantes, Révolution numéro 1 et Révolution numéro 9. Pour la première fois dans l'industrie du disque, on introduira des messages subliminaux pour transmettre l'évangile de Satan. La formule fait fortune et désormais, la musique rock prendra la voie royale de la perversion diabolique. Parmi les maîtres du genre, il faut mentionner principalement les Rolling Stones, dont l'archiprêtre satanique sera Mick Jagger. Suivront de près les groupes The Who, Black Sabbath, Led Zeppelin et The Styx. Cette fois-ci, il n'y a plus d'équivoque possible. Tout est inspiré, concentré et ordonné à la glorification des pouvoirs occultes et à l'adoration de Sa Majesté Satan. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer ce tournant décisif dans l'évolution du rock'n'roll? Mentionnons seulement trois sources principales. Premièrement, les diverses techniques des messages subliminaux. Deuxièmement, la consécration des artistes eux-mêmes à la personne de Satan. Troisièmement, les bailleurs de fonds qui, eux, ont en vue la mainmise mondiale, à savoir les Illuminati, l'agence Wicca, Witches International Crafts and Conjuration Arts, et la Welsh Witches Society. Tout ceci nous amène à la cause célèbre de Led Zeppelin en Californie. La révolution du rock'n'roll aurait pu poursuivre son cours sans ennui si un curieux incident ne s'était produit en Californie. Un pasteur, Gary Greenwald, lui-même ancien artiste rock, a provoqué tout un remous en démasquant la présence de messages subliminaux dans les disques très populaires chez les jeunes. Chose étrange, de tous les artistes connus internationalement, c'est le groupe Led Zeppelin qui a écopé d'une enquête systématique, notamment à cause de sa chanson « Stairway to Heaven ». Un comité de l'Assemblée législative de la Californie a été saisi de plusieurs plaintes de citoyens présentées par le Comité pour la protection des consommateurs. À la suite de cette enquête, dénonçant le « backward masking process », le député Philip Wyman a préparé un projet de loi forçant les compagnies de disques à indiquer sur leur pochette le contenu du message subliminal de caractère satanique ou autre. À vrai dire, le groupe Led Zeppelin n'est ni le plus dangereux ni le plus pernicieux. Il ne représente à toute fin pratique que la pointe de l'iceberg dont les 9/10 submergés regroupent les Beatles, les Rolling Stones, Styx, The Who, Kiss, Black Sabbath et combien d'autres. C'est cependant grâce à cette cause célèbre que l'implantation des messages subliminaux sur les disques a été portée à la connaissance du public. Qu'est-ce que le message subliminal et pourquoi parle-t-on du viol de la conscience? Comme l'indique le mot lui-même, « sublimina », il s'agit de la transmission de messages désignés à rejoindre l'auditeur juste en dessous du seuil de sa conscience. Le message transmis échappe à l'oreille, aux yeux, aux sens externes pour pénétrer dans le subconscient profond de l'auditeur complètement sans défense contre cette forme d'agression. Le concepteur du message subliminal est parfaitement conscient de l'objectif qu'il veut atteindre, à savoir une révolution en profondeur capable de toutes les subversions. D'autre part, l'auditeur ignore complètement qu'il subit cette invasion de sa conscience et de son inconscient profond. Comme son intelligence consciente et sa volonté ne sont pas en état d'alerte, ni en mesure de porter un discernement quelconque, c'est le subconscient lui-même qui capte le message, le décode, le reconstruit pour le transmettre ensuite par la mémoire au moi conscient, en passant par le détour de l'id et du surmoi. Dans le rock'n'roll, les messages transmis de façon subliminale ont un contenu très varié. La perversion sexuelle sous toutes ses formes, l'appel à la révolte contre l'ordre établi, la suggestion du suicide, l'incitation à la violence et au meurtre, et enfin, la consécration à Satan. Des exemples précis vous seront fournis dans quelques instants. Nous voici maintenant rendus au cœur même du problème. Le message subliminal verbal. Il s'agit ici de l'utilisation d'un processus qu'on appelle le reverse masking process, c'est-à-dire le processus du message masqué et renversé. Pour transmettre les messages subliminaux de façon plus subtile et moins détectable, on imprime en renversé les phrases qui deviennent parfaitement audibles quand on rejoue le disque en sens inverse. Le phénomène étrange qui se produit, c'est que le subconscient peut capter le message, le décoder, même si la personne ne comprend pas la langue originale utilisée pour le message. Par exemple, lorsque le message est donné en anglais, il est perçu de façon subconsciente par l'auditeur qui ne connaît même pas cette langue. C'est pourquoi j'appelle ce procédé un véritable viol de la conscience. 4 techniques sont utilisées pour l'impression du message subliminal verbal. 1. La fréquence modulée. 2. La très basse fréquence, c'est-à-dire entre 14 à 20 ondes secondes. Troisièmement, la haute fréquence, entre 17 et 20 000 ondes secondes. Et quatrièmement, la vitesse variable, audible seulement qu'avec un appareil spécialisé à cette fin, qu'on peut retrouver, par exemple, en studio. Le beat produit aussi un effet subliminal non-verbal. Un signal subliminal est transmis et capté par l'utilisation du beat rythmique. La force du rock, c'est la pulsation syncopée du rythme qui produit dans l'organisme humain un retentissement biopsychologique capable de modifier le fonctionnement des divers organes du corps. Le beat peut produire une accélération de la pulsation cardiaque, un accroissement du taux d'adrénaline, peut provoquer non seulement un bien-être sexuel, mais également plusieurs orgasmes successifs. Mais il y a un troisième moyen de transmission de messages subliminal. Il s'agit du signal subliminal. Il est possible d'inscrire sur un disque un signal à fréquence supersonique comparable au sifflet muet qu'on utilise pour appeler les chiens. Lorsque le cerveau est stimulé de façon prolongée par un tel signal supersonique, il se produit alors une réaction biochimique équivalente à une piqûre de morphine, comme l'indique son nom même, l'endomorphine. La réaction produit un double effet, une sensation de bien-être étrange et une activation des processus mentaux. C'est un peu comme si l'hyperactivité du cerveau lui permettait de comprendre avec plus de lucidité le message subliminal verbal contenu en renversé. La quatrième technique est celle de la stroboscopie. Oh là là, quel grand mot! Un stroboscope est un appareil qui peut accélérer à volonté l'alternance de lumière et de ténèbres qui produit un affaiblissement considérable du sens de l'orientation, du jugement et des réflexes. Quand on combine l'effet de la musique rock avec le jeu du stroboscope, toutes les barrières du jugement moral s'affaissent pour désarmer la personne de ses réflexes automatiques et de ses mécanismes de défense naturels. Ainsi, la personne, sans même s'en apercevoir, se laisse aller à toutes les suggestions des messages subliminaux contenus dans les disques. Devant tous ces moyens techniques hautement spécialisés, la personne humaine se voit violentée au niveau de sa liberté, de son libre arbitre, et de ses moyens ordinaires de défense. C'est pourquoi le terme de « viol de la conscience » n'est pas trop fort pour exprimer le dommage mental, moral et spirituel subi par les auditeurs de la musique rock. Passons maintenant à des exemples concrets. Passons de la théorie aux faits. Pour illustrer quelques cas précis de messages subliminaux, vous entendrez dans quelques instants trois exemples absolument clairs. La première pièce est tirée de la chanson « Fire on High », jouée par le groupe Electric Light. Il s'agit ici d'une démonstration technique préparée spécialement pour les studios de radio et de production. Le but, c'est d'alerter les producteurs à une nouvelle dimension musicale, la musique réversible et le message subliminal. Maintenant que vous avez entendu la version normale, voici en renversé le message subliminal qu'il est très facile d'entendre. Music is reversible, but time is not. Turn back. Turn back. Turn back. La musique est réversible, mais le temps ne l'est pas. Recule. Recule. Recule avant qu'il ne soit trop tard.
The music is reversible, but time. Turn back, turn back, turn back, turn back.
Le deuxième exemple est extrait de la chanson très populaire Stairway to Heaven par le groupe Led Zeppelin. Voici tout d'abord la version normale et connue de tous.
There's a feeling I get when I look to the west and my spirit is crying for me.
Et voici maintenant le message subliminal en version renversée. I've got to live for Satan. I've got to live for Satan. Il me faut vivre pour Satan. Il me faut vivre pour Satan. Pour conclure, j'utiliserai le chant des Beatles intitulé Revolution No. 9. Car c'est à partir du moment précis de la parution de cette chanson que les messages subliminaux furent intégrés dans la production des disques rock'n'roll. À l'endroit, vous entendrez la répétition sans fin de « Number nine, number nine, number nine, number nine. » »«
Number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine. » Number nine, number nine, number nine, number nine.
Le message subliminal que vous entendrez en version renversée est le suivant. Turn me on, dead man. Turn me on, dead man. Turn me on, dead man. En traduction, cela signifie « Excite-moi sexuellement, homme mort ». Et l'homme mort en question, c'est Jésus-Christ.
Turn me on, dead man. Turn me on, dead man. Turn me on, dead man.
Et pour bien démontrer que telle était la pensée des Beatles, John Lennon se fera le porte-parole du groupe lors de la présentation publique du Devil's White Album. Le christianisme, dit-il, va disparaître. Il va régresser, se désagréger. Je n'ai rien à prouver là-dessus, j'ai raison. L'histoire démontrera que j'ai eu raison. Présentement, nous sommes plus populaires que Jésus-Christ. Je me demande bien ce qui disparaîtra en premier, le rock'n'roll ou le christianisme. En d'autres termes, il proclame que Jésus-Christ est mort et enterré. Seul survit et triomphe le rock'n'roll. Je pourrais bien ajouter une bonne dizaine d'exemples de messages subliminaux qui ont été relevés dans différents disques. Je me contente de quelques-uns. Par exemple, sur le disque Led Zeppelin, Stairway to Heaven, oui à Satan. N'aie pas peur de Satan, ne fais pas l'idiot. Je désire que le Seigneur plie le genou devant Satan. Du groupe Kiss, meurs jeune, meurs jolie. Si tu m'aimes, coupe-toi. Satan, c'est lui qui est ton Dieu. Du groupe Black Sabbath, Jésus, c'est toi le vilain. Et enfin, prends la marque et vis. Il s'agit de la marque de l'Antéchrist, le numéro 666. Un mot maintenant sur les messages sataniques en direct. Grâce au succès énorme des messages subliminaux, les auteurs rock n'hésitent même plus à exprimer, noir sur blanc, leurs inspirations sataniques. Voici un sur trois exemples patents qui démontrent le fond de leur pensée. Vous trouverez les autres informations dans le livret sur le même sujet. J'ai choisi le groupe Hard Rock AC/DC car son titre signifie Antichrist, Death to Christ, Antichrist, mort au Christ. Et ce groupe chante les gloires des cloches de l'enfer dans Hell's Bells. Je suis un tonnerre fracassant, une pluie torrentielle. Je viens comme un ouragan, mon éclair illumine le ciel. Tu es jeune, mais tu vas mourir. Je ne prendrai aucun prisonnier, je ne sauverai aucune vie, et personne ne s'oppose. J'ai mes cloches, et je t'amène en enfer. Je t'aurai. Les cloches de l'enfer, oui, les cloches de l'enfer. J'aurais bien d'autres exemples à vous donner, par exemple, un extrait de la chanson « The God of Thunder » du groupe Kiss, ou encore la chanson du groupe punk « The Dead Kennedys » qui s'intitule « Je tue les enfants ». Mais vous pouvez trouver ces informations dans le fascicule qui accompagne cette cassette. Je voudrais parler maintenant des influences occultes et de la consécration à Satan. Des dizaines d'exemples établissent clairement la preuve que les grandes étoiles du rock and roll se sont librement et volontairement consacrées à Satan. Sur les trois exemples que vous trouverez dans le fascicule, je n'en retiens qu'un, celui d'Alice Cooper. Voici le témoignage explicite de Alice Cooper, dont le vrai nom est Vince Furnier, ou si vous voulez, Vincent Fournier. Il y a quelques années, dit-il, je suis allé dans une séance de spiritisme où Norman Buckley supplia que l'esprit se fasse entendre. L'esprit s'est finalement manifesté et il m'a parlé. Il m'a promis, à moi et à mon groupe rock, la gloire, la domination mondiale par la musique rock et la richesse en abondance. Et la seule chose qu'il m'a demandé en retour, c'était de lui livrer mon corps pour que cet esprit prenne possession de moi. En échange de la possession de mon corps, je suis devenu célèbre à travers le monde. Pour ce faire, j'ai pris le nom par lequel il s'était identifié lors de la séance. Je suis donc maintenant reconnu mondialement. Vous vous doutez quel est mon nom? C'est Alice Cooper. Mick Jagger s'est consacré à Satan dans la secte maçonnique The Order of the Golden Dawn, en même temps que son ami Keith Richard. Ozzy Osbourne, ancienne étoile du groupe Black Sabbath, avoue lui aussi candidement qu'il n'a jamais composé de musique sans être en état de transe médiumnique. Pour conclure, mentionnons le cas très connu de Elton John qui déclare qu'il n'a jamais écrit une seule chanson ou chanté une seule production qui n'avait pas d'abord été écrite en langage de sorcellerie. Par exemple, Beyond the Yellow Brick Road est à 100% en langage de sorcellerie et c'est pourquoi plusieurs chansons sont incompréhensibles aux auditeurs. C'est aussi le cas de Stairway to Heaven de Led Zeppelin.
I am Iron Man. Le rock'n'roll, c'est ramage et c'est ravage. Pour la vaste majorité du public, le rock'n'roll n'est qu'une forme inoffensive de divertissement ou un engouement passager des jeunes exaltés. Et pourtant, de l'aveu même des Beatles, notre musique est capable de causer une instabilité émotionnelle, un comportement pathologique, voire même la révolte et la révolution. Le rock'n'roll est plus que de la musique. C'est le centre énergétique d'une nouvelle culture et d'une révolution mondiale. Selon une enquête américaine de 1981, 87% de tous les adolescents écoutent de 3 à 5 heures par jour de musique rock. Depuis l'avènement des appareils Walkman, la moyenne s'est accrue de 7 à 8 heures par jour. En une seule année, 90% de tous les disques vendus à travers le monde étaient des disques rock, 130 millions par année. Et ce chiffre n'inclut pas les 100 millions d'albums de plus que la musique rock vend annuellement. Faut-il davantage de statistiques pour nous convaincre que ce phénomène est universel et rejoint la presque totalité des adolescents des deux hémisphères? Se peut-il qu'un tel déferlement de frénésie musicale ne produise aucun effet sur le plan psychologique, mental, moral, spirituel, aussi bien des individus que des masses? Voici quelques renseignements précis qui vont vous permettre de prendre conscience de la gravité et de la profondeur des effets du rock'n'roll sur les jeunes en particulier, et sur tous les auditeurs en général. Sur le plan médical, arrêtons-nous aux effets physiques et psychologiques. De nombreuses études ont été entreprises pour évaluer les divers effets de la musique rock à la suite de graves traumatismes de l'ouïe, de la vue, de la colonne vertébrale, du système endocrinien et du système nerveux central des auditeurs assidus à ce genre de musique. Bob Larson et une équipe médicale de Cleveland, Ohio, ont relevé des effets physiques étonnants chez plus de 200 patients. On a noté que cette musique pouvait avoir des effets physiques étonnants. Changement de la pulsation et de la respiration, sécrétion accrue des glandes endocrines, en particulier de la glande pituitaire qui règle les processus vitaux dans l'organisme. Quand la mélodie monte, le larynx se contracte. Quand elle descend, il se relâche. Le métabolisme de base, comme le taux du sucre dans le sang, se modifie au cours d'une audition. On peut donc envisager de jouer sur l'organisme humain comme sur un instrument musical, et en fait, certains compositeurs de musique électronique se sont proposés de manipuler le cerveau comme par une drogue, en court-circuitant les facultés conscientes. Le rythme prédominant dans le rock affecte primairement le corps et stimule certaines fonctions hormonales du système endocrinien. Ces effets sont amplifiés par l'intensité de la musique. Au-delà de 80 décibels, l'effet est désagréable. Au-delà de 90, il devient nuisible. Or, dans les concerts rock, on a noté des chiffres de l'ordre de 106 à 108 décibels au centre de la salle et de 120 décibels près de l'orchestre. Aussi, les spécialistes découvrent-ils chez les jeunes des problèmes d'audition affectant habituellement les adultes après 50 ans, ainsi qu'une augmentation inquiétante des maladies cardiovasculaires et des troubles de l'équilibre. Sur le plan visuel maintenant, l'intensité des éclairages spéciaux et l'utilisation des rayons laser ont produit des dommages irréversibles aux yeux des participants. Le professeur Paul Zimmer de l'Université Purdue fait le rapport suivant. En effet, certaines discothèques sont équipées d'un système laser. Si le rayon pénètre dans l'œil, dit le professeur Zimmer, il peut se produire une brûlure de la rétine avec formation d'une tache aveugle permanente. En outre, les éclairs de lumière vive qui fusent au rythme de la musique provoquent parfois des vertiges, des nausées et des phénomènes hallucinatoires. Certaines autorités ont même dénoncé les dangers de cette pratique, notamment le gouvernement britannique, qui a fait paraître une mise en garde à ce sujet dans une brochure sur la sécurité dans les milieux scolaires. Le célèbre musicothérapeute Adam Nist fait rapport d'une étude qui a duré 10 ans sur les effets de la musique rock, et voici ce qu'il déclare à son tour. Le problème central causé par la musique rock chez les patients que j'ai traités est clairement l'intensité du bruit qui cause l'hostilité, l'épuisement, le narcissisme, la panique, l'indigestion, l'hypertension et une étrange narcose. Le rock n'est pas un passe-temps inoffensif. C'est une drogue plus mortelle que l'héroïne et qui empoisonne la vie de nos jeunes. Cette étude apparue dans le Richard Time Dispatch. Sur le plan strictement sexuel, l'équipe médicale de Bob Larson affirme catégoriquement ce qui suit. Les vibrations des basses fréquences, dues à l'amplification des guitares basses, cumulées avec l'effet répétitif du beat, produisent un effet significatif sur le liquide cérébrospinal. À son tour, ce liquide affecte directement la glande pituitaire qui commande la sécrétion d'hormones. Le résultat global est un déséquilibre des hormones sexuelles et surrénales, ainsi qu'un changement radical d'insuline dans le sang, de sorte que les diverses fonctions de contrôle des inhibitions morales tombent nettement en dessous du seuil de tolérance ou sont complètement neutralisées. Passons maintenant aux effets psychologiques. Si graves que puissent être les effets physiologiques du rock, plus graves encore sont les effets psychologiques. On ne se soumet pas impunément pendant un temps prolongé à l'influence dépersonnalisante du rock sans subir des traumatismes psycho-affectifs profonds. Qu'il me suffise d'en énumérer 10 qui reviennent le plus souvent dans les analyses médicales et psychiatriques. 1. Modification des réactions émotives, allant de la frustration à la violence incontrôlable. 2. Perte de contrôle des capacités de concentration, aussi bien consciente que réflexe. 3. Diminution considérable du contrôle de l'intelligence et de la volonté au profit des pulsions subconscientes. 4. Surexcitation neurosensorielle capable de produire euphorie, suggestibilité, hystérie et même hallucination. 5. Troubles sérieux de la mémoire, des fonctions cérébrales et de la coordination neuromusculaire. 6. État hypnotique ou cataleptique, assimilant la personne à un genre de zombie ou de robot. 7. État dépressif, allant jusqu'à la névrose, voire même jusqu'à la psychose, surtout lorsque la musique et la drogue se combinent ensemble. 8. Tendance suicidaire et homicide, considérablement accrue par l'usage quotidien et prolongé de la musique rock. 9. Automutilation, c'est-à-dire qu'on se coupe soi-même. Auto-immolation, c'est le cas des groupies qui s'offrent en victime pour les rock stars. Et auto-punition, où on s'inflige des punitions pour enlever sa culpabilité. Et cela, surtout dans les contextes de masse et d'hystérie collective. Enfin, impulsions incontrôlables de destruction, de vandalisme et d'émeutes à la suite des concerts et des festivals rock. Et ces rapports sont signés par des noms aussi prestigieux que les docteurs Max Rafferty, Dr. Granby Blaine, Dr. Bernard Sebel, Dr. Walter Wright, ainsi que 2 grands maîtres des études sur le rock'n'roll, Frank Garlock et Tom Allen. Parlons maintenant des conséquences morales. Les cinq thèmes majeurs de l'univers rock'n'roll sont le sexe, la drogue, la révolte, la fausse religion et l'influence diabolique. Ainsi, l'intelligence, la volonté, le libre arbitre et la conscience morale subissent un tel assaut par la voie de tous les sens que leurs capacités de discernement et de résistance sont fortement diminuées, parfois même neutralisées. Dans cet état de confusion morale et mentale, la voie est complètement ouverte au défoulement les plus violents des pulsions refoulées, telles que la haine, la colère, la frustration, la vengeance, la sexualité et toutes les formes de perversion. De plus, les vedettes du rock'n'roll deviennent non seulement des modèles à imiter, mais aussi des idoles à vénérer. Cet envoûtement de caractère idolâtrique a entraîné comme conséquence le phénomène des groupies. C'est ce groupe de jeunes filles qui se donnent corps et âme à leurs idoles à la fin de chaque concert, soit pour coucher avec eux, soit pour que leur corps serve d'autel pour les messes noires, soit encore pour des sacrifices humains dans le cadre des cérémonies de sorcellerie. Il y a aussi des suicides très nombreux en apprenant la mort de leur vedette préférée et même quelques meurtres, dont le plus célèbre demeure celui de John Lennon par son admirateur Mark David Chapman. Ajoutons à tout ce qui précède les influences subliminales dont nous avons déjà parlé, comme autant de viols de la conscience et de manipulations du libre-arbitre. La meilleure formation morale et spirituelle ne peut résister longtemps à l'érosion inévitable de la conscience, du cœur et de l'esprit que produit l'usage quotidien et habituel de la musique rock. Les effets vont beaucoup plus loin. Parlons des conséquences sociales. Nous avons déjà affirmé que la révolution rock'n'roll a pour but d'alimenter la révolte des jeunes contre toutes les formes de contraintes familiales, religieuses, administratives, politiques, économiques et militaires. Mais il y a plus. Les concerts des festivals rock déclenchent de telles hystéries collectives que des émeutes et des rixes éclatent en plein milieu des happenings. Quelques exemples suffiront à le démontrer. À Vancouver, par exemple, durant un des spectacles des Beatles, il a suffi de 30 minutes pour que 100 personnes soient piétinées, agressées et gravement blessées. À Melbourne, plus de 1000 personnes ont été victimes de graves blessures à l'occasion d'un festival rock. À Beyrouth, au Liban, 5 lances hydrauliques ont dû être utilisées pour disperser la foule hystérique des participants au concert rock. À Altamont, en 1969, un festival des Rolling Stones a attiré 300 000 personnes, où périrent plusieurs jeunes par asphyxie et 3 autres d'une surdose de drogue. À Cincinnati, au Colisée Riverfront, en décembre 1975, 11 jeunes ont été piétinés à mort par les 18 000 spectateurs qui ont défoncé les barrières pour entrer au festival. Le groupe Who a commencé son concert comme si rien n'était arrivé, et les spectateurs frénétiques ont envahi la scène à la fin du spectacle, entraînant la mort par suffocation de plusieurs autres jeunes participants. Devant ces divers constats, la révolution du rock'n'roll a réussi en 30 ans la plus profonde perversion de la jeunesse que l'histoire ait jamais enregistrée. N'est-il pas étonnant que les pouvoirs publics se montrent si impuissants devant le phénomène néfaste et pernicieux engendré par cette vague musicale érotique et satanique? Alors que les pouvoirs publics dépensent des milliards pour combattre la pollution de l'air, la pollution de l'eau et la pollution par le bruit, ces mêmes pouvoirs ne trouvent ni les ressources, ni les moyens, ni la volonté ferme de combattre et de surmonter la pollution morale et spirituelle de la jeunesse, victime de cette vaste conspiration. N'est-il pas vrai l'adage bien connu « Pervertissez la jeunesse, vous vaincrez la nation ». Eh bien voilà, chers amis, devant la masse d'informations qui nous confrontent, devant les faits qui nous confondent, le temps n'est-il pas venu pour tous les responsables de la vie sociale et de la vie spirituelle de notre pays de passer d'une prise de conscience douloureuse à une prise de position énergique? Le mal n'a pas plus de rayonnement que ne lui en laissent gagner les gens de bien qui ne font rien. Parlons d'abord de l'action des citoyens. Ce qui importe en tout premier lieu, c'est d'informer le grand public et l'ensemble des consommateurs de la nature, de l'ampleur et de la gravité des conséquences néfastes du phénomène révolutionnaire rock'n'roll, dirigé et alimenté par la puissance occulte des Illuminati. Cette campagne d'information doit être la plus étendue et la plus exacte possible afin d'alerter la conscience du public et le sens des responsabilités de tous les citoyens. Des lettres et des télégrammes pourraient être envoyés massivement aux divers bureaux du service de la protection des consommateurs. En effet, comment expliquer que les produits dont nous avons parlé peuvent être distribués sans indication du contenu nocif et pernicieux des messages subliminaux, incitant à la subversion, à la corruption, au meurtre et même à la consécration aux démons? Une action concertée auprès des députés, tant provinciaux que fédéraux, devrait stimuler nos législateurs à entreprendre les mesures légales de trois types différents. Premièrement, la rédaction d'une loi allant dans le même sens que celle de Philip Wyman en Californie. Deuxièmement, une révision des accords internationaux quant à l'importation et à la diffusion massive de ces disques, de ces cassettes et de ces spectacles révolutionnaires, subversifs et dangereux. Troisièmement, une prise de position ou une déclaration de principe des deux instances gouvernementales sur ce grave problème, soit la Secrétaire d'État pour le fédéral et le ministère des Affaires culturelles pour le provincial. De plus, les parents ont une responsabilité grave, un droit premier et inaliénable quant à l'éducation de leurs enfants. Il serait donc urgent que les parents se montrent attentifs et vigilants quant à la musique, aux disques et aux concerts rock qui s'avèrent un réel danger physique, moral et spirituel pour leurs propres enfants. Il y a aussi les professeurs, les éducateurs et les animateurs. Tous ont également un rôle de premier plan à jouer pour une éducation positive du jeune sur le plan musical et artistique. Je sais par expérience que des groupes de discussion avec les jeunes sur les divers thèmes traités jusqu'ici sont de nature à les intéresser, à les éveiller, à les interpeller et à les faire évoluer vers le beau, le vrai et le bien. Parlons ensuite des responsables de pastorale, des membres du clergé. Eux aussi doivent assumer leur part dans la formation intégrale de la jeunesse, principalement au niveau de la conscience, de la liberté, du discernement spirituel et des options formellement chrétiennes. Rappelons-nous cette parole de Jésus-Christ, « La vérité vous rendra libre. » Celui-là est vraiment libre que le Fils de l'homme a rendu libre. Il y a également les conférences épiscopales, soit régionales, soit nationales. Ces diverses conférences épiscopales pourraient avantageusement préparer des lettres pastorales adressées aussi bien aux jeunes qu'aux parents pour stimuler les fidèles à exercer en ce domaine leurs droits et leurs devoirs quant à l'éducation de la conscience, l'éducation de la foi et de la solidarité sociale face aux divers problèmes que suscite la musique rock'n'roll, mettant en danger le plus-être et le mieux-être des communautés chrétiennes. Je serais heureux que la Conférence épiscopale du Canada applique concrètement la directive qu'il nous donnait au début de l'année, la foi, ça se vit en famille. En plus du devoir des citoyens, il y a une deuxième action très importante, l'éducation positive du sens de la musique. Tous les éducateurs savent très bien qu'il est parfaitement inutile d'interdire ou de dénoncer un comportement quelconque sans proposer de meilleurs choix ou de meilleurs modèles aux personnes concernées. Les répertoires musicaux de caractère international sont vastes et variés. Ne serait-il pas beaucoup plus utile et profitable de faire connaître la production de nos propres artistes québécois et canadiens, dont les œuvres sont autrement plus constructives et valables que la production du rock'n'roll américain et britannique? Puis, il y a encore tout le champ des autres formes musicales, populaires et classiques, folkloriques et thématiques, produites en France, en Belgique, en Suisse et dans l'ensemble des pays francophones. Depuis une vingtaine d'années, on assiste également à une renaissance considérable de la musique chrétienne, dont les rythmes et les paroles enthousiasment les jeunes qui fréquentent les grands rassemblements. Enfin, ce qui compte avant tout, c'est de former le sens musical, le sens poétique, le sens humain et le sens chrétien de tous ceux qui aiment et apprécient les œuvres de valeur qui élèvent le cœur, le corps et l'esprit. Il faudrait aussi mettre en marche une campagne d'information rendant accessibles les livres, les brochures, les disques et les cassettes capables de répondre aux attentes et aux aspirations de la jeunesse et de tous ceux qui sont responsables de leur éducation. Allons maintenant un pas plus loin. Parlons de la mobilisation générale de tous les gens de bonne volonté. 30 ans de recul ont suffi largement pour se faire une idée exacte de la nature et de l'ampleur de la révolution rock'n'roll. L'heure est venue, et c'est maintenant, pour tous les gens de bonne volonté, d'unir leurs efforts pour bâtir ensemble une société renouvelée et mettre en marche, dès maintenant, la civilisation de l'amour d'ici l'an 2000. Nous aurons demain la société que nous bâtissons aujourd'hui. Et la jeunesse d'aujourd'hui est garant de l'avenir et de la société et de l'Église. Quand la jeunesse se refroidit, l'humanité claque des dents. Mais quand la jeunesse se réchauffe, toute l'humanité s'en porte mieux. Aidons ensemble notre jeunesse à sortir du marasme spirituel et moral du rock'n'roll en lui ouvrant toute large les portes de la vérité, de la beauté, de l'harmonie et du bien. Parlons maintenant des moyens spirituels. Si j'aborde cette question des moyens spirituels à la toute fin, c'est pour bien m'assurer que vous retiendrez plus facilement les suggestions que je désire vous offrir à ce moment. Comme le combat est d'abord et avant tout un combat spirituel contre les puissances de ténèbres, les moyens les plus efficaces à mettre en œuvre sont la prière, la formation spirituelle, la prédication, les retraites, l'ascèse et la fréquentation des sacrements. Toutes les formes d'intervention que j'ai mentionné antérieurement, ne seront efficaces et fructueuses que dans la mesure où elles seront fécondées par la parole de Dieu, par la prière, par la solidarité communautaire vécue dans l'amour et par la conversion radicale des cœurs et des esprits au Christ et Seigneur Jésus. Il est bon de se rappeler en terminant que Jésus est vainqueur et que d'avance, il est vaincu le père du mensonge et l'accusateur de nos frères. En définitive, le choix que nous avons à faire est entre le Christ et Satan. Saint Paul, conscient de la nature du combat spirituel que tous les chrétiens ont à livrer, nous a laissé cette page de feu dans son épître aux Éphésiens, chapitre 6e. En définitive, rendez-vous puissant dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des adversaires de chair et de sang que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister, et après avoir tout mis en œuvre, rester ferme. Tenez-vous donc debout, avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, et pour chaussure, le zèle à propager l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Vivez dans la prière et les supplications. Priez en tout temps dans l'esprit. Apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. Priez aussi pour moi, afin qu'il me soit donné d'ouvrir la bouche pour parler et annoncer hardiment le mystère de l'Évangile dont je suis l'ambassadeur dans mes chaînes. Obtenez-moi la hardiesse d'en parler comme je le dois.